La question de l'inflation. Ce panorama de la croissance depuis la révolution industrielle serait fort incomplet si nous n'évoquions pas la question de l'inflation. On pourrait penser que l'inflation est un phénomène purement monétaire, dont nous ne devrions pas nous soucier. De fait, tous les taux de croissance que nous avons évoqués jusqu'ici correspondent à la croissance dite réelle, c'est-à-dire après avoir déduit de la croissance dite nominale, mesurée à partir des prix affichés aux consommateurs, le taux d'inflation, c'est-à-dire la hausse de l'indice moyen des prix à la consommation. En réalité, la question de l'inflation joue un rôle central dans notre enquête. Nous avons déjà noté que la notion même d'indice moyen des prix posait problème, car la croissance se caractérise toujours par l'apparition de nouveaux biens et services et par d'énormes mouvements des prix relatifs, qu'il est bien difficile de résumer par un chiffre unique. Il en découle que les concepts mêmes d'inflation et de croissance ne sont pas toujours très bien définis. La séparation de la croissance nominale, la seule que l'on peut observer à l'œil nu ou presque, entre une composante réelle et une composante inflationniste est en partie arbitraire et donne d'ailleurs lieu à de multiples controverses. Par exemple, pour une même croissance nominale de 3% par an, on considérera que la croissance réelle est de 1% si l'on estime que la hausse des prix est de 2%. Mais si l'on révise à la baisse l'estimation de l'inflation, par exemple parce que l'on considère que le prix réel des smartphones et des tablettes a beaucoup plus baissé que ce que l'on croyait précédemment, compte tenu des améliorations considérables de qualité et de performance que les statisticiens prennent beaucoup de soin à mesurer, ce qui n'est pas simple, et si l'on considère que la hausse des prix n'est que de 1,5%, on aboutira à la conclusion que la croissance réelle est de 1,5%. En réalité, surtout s'agissant de différences aussi légères, les deux chiffres sont difficiles à distinguer avec certitude, et d'ailleurs chacun contient sa part de vérité. La croissance a sans doute été plus proche de 1,5% pour les amateurs de smartphones et de tablettes, et plus proche de 1% pour tous les autres. Les mouvements de prix relatifs peuvent jouer un rôle plus décisif encore dans le cadre de la théorie de Ricardo et de son principe de rareté. Si certains prix, comme celui de la terre, de l'immobilier ou encore du pétrole, prennent des valeurs extrêmes pendant des périodes prolongées, cela peut affecter durablement la répartition des richesses au bénéfice des détenteurs initiaux de ces ressources rares. Au-delà de ces questions de prix relatifs, nous allons voir que l'inflation, proprement dite, c'est-à-dire la hausse généralisée de tous les prix, peut également jouer un rôle fondamental dans la dynamique de la répartition des richesses. En particulier, c'est l'inflation qui, pour l'essentiel, a permis aux pays riches de se débarrasser de leurs dettes publiques à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. L'inflation a également engendré toutes sortes de redistributions entre groupes sociaux au cours du XXe siècle, de façon souvent chaotique et assez peu maîtrisée. À l'inverse, la société patrimoniale, qui s'épanouit au XVIIIe et XIXe siècle, est indissociable de la très grande stabilité monétaire qui caractérise cette très longue période. La grande stabilité monétaire des XVIIIe et XIXe siècles. Revenons en arrière. Le premier fait central qu'il convient d'avoir présent à l'esprit est que l'inflation est dans une large mesure une invention du XXe siècle. Au cours des siècles précédents, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'inflation était nulle ou quasi nulle. Les prix pouvaient parfois monter ou baisser fortement pendant quelques années, parfois quelques décennies, mais ces mouvements à la hausse ou à la baisse finissaient généralement par se compenser. Il en va ainsi dans tous les pays pour lesquels nous disposons de séries de prix sur longue période. En particulier, si l'on fait la moyenne de la hausse des prix sur les périodes 1700-1820 d'une part et 1820-1913 d'autre part, on observe une inflation insignifiante aussi bien pour la France et le Royaume-Uni que pour les États-Unis et l'Allemagne, au maximum 0,2%, 0,3% par an. On constate même parfois des niveaux légèrement négatifs, comme au Royaume-Uni et aux États-Unis au XIXe siècle, moins 0,2% par an en moyenne dans les deux cas, entre 1820 et 1913. Certes, il y eut quelques entorses à cette grande stabilité monétaire, mais elles furent à chaque fois de courte durée et le retour à la normale s'imposa très vite comme une évidence. Un cas particulièrement emblématique est celui de la Révolution française. Dès la fin de l'année 1789, les gouvernements révolutionnaires émettent les fameux assignats qui deviendront une véritable monnaie de circulation et d'échange dès 1790-1791, l'une des premières monnaies de papier dans l'histoire, et qui généreront une forte inflation mesurée en assignats jusqu'en 1794-1795. Mais le point important est que le retour à la monnaie métallique, avec la création du franc germinal, se fit à la même parité que la monnaie de l'Ancien Régime. La loi du 18 germinal en 3, 7 avril 1795, débaptise la vieille livre tournois, qui rappelle trop la royauté, et la remplace par le franc, qui sera désormais la nouvelle unité monétaire officielle du pays, mais avec la même teneur en métal que la précédente. La pièce de 1 franc doit contenir exactement 4,5 grammes d'argent fin, comme la livre tournois depuis 1726, ce qui sera confirmé par la loi de 1796, puis celle de 1803, qui institue définitivement le bimétallisme argent-or. Au final, les prix mesurés en francs dans les années 1800-1810 se situent approximativement au même niveau que les prix exprimés en livres tournois dans les années 1770-1780. Si bien qu'à ce changement d'unité près, la Révolution n'a rien modifié au pouvoir d'achat de la monnaie. Les romanciers du début du XIXe siècle, à commencer par Balzac, passent d'ailleurs sans arrêt d'une unité à l'autre pour décrire les revenus et les fortunes. Pour tous les lecteurs de l'époque, le franc germinal, ou franc or, et la livre tournois constituent une seule et même monnaie. Pour le père Goriot, il est parfaitement équivalent de posséder 1200 livres de rente ou bien 1200 francs, et il est superflu de le préciser. La valeur en or du franc fixée en 1803 n'a officiellement été modifiée que par la loi monétaire du 25 juin 1928. En réalité, la Banque de France était dispensée depuis août 1914 de rembourser ses billets en espèces d'or ou d'argent, et le franc or était de fait déjà devenu un franc papier entre 1914 et la stabilisation monétaire de 1926-1928. Il n'en reste pas moins que la même parité métallique s'est appliquée de 1726 à 1914, ce qui n'est pas rien. On constate la même stabilité monétaire au Royaume-Uni avec la livre sterling. Malgré de légers ajustements, le taux de conversion entre les monnaies des deux pays est extrêmement stable pendant deux siècles. La livre sterling vaut toujours environ 20-25 livres tournois ou francs germinal au XVIIIe siècle comme au XIXe, et jusqu'en 1914. Pour les romanciers britanniques de l'époque, la livre sterling et ses étranges subdivisions en shilling et en guinée paraissent aussi solides que le roc, de la même façon que la livre tournois et le franc or pour les romanciers français. Toutes ces unités semblent mesurer des grandeurs invariables dans le temps, des points de repère permettant de donner un sens éternel aux grandeurs monétaires et aux différents statuts sociaux. Il en va de même dans les autres pays. Les seules modifications importantes concernent la définition de nouvelles unités ou la création de nouvelles monnaies, comme le dollar américain en 1775 et le marque or en 1873. Mais une fois les parités métalliques fixées, plus rien ne bouge. Au 19e et au début du 20e siècle, chacun sait bien qu'une livre sterling vaut environ 5 dollars, 20 marques et 25 francs. La valeur des monnaies n'a pas changé depuis des décennies et on ne voit nulle raison qu'il en aille autrement à l'avenir. Le sens de l'argent dans le roman classique. De fait, dans le roman du XVIIIe et du XIXe siècle, l'argent est partout, non seulement comme force abstraite, mais aussi et surtout comme grandeur charnelle et concrète. Les romanciers nous donnent en permanence les montants en francs ou en livres des niveaux de revenus et de fortune des différents personnages, non pas pour nous abreuver de chiffres, mais parce que ces quantités permettent de fixer dans l'esprit du lecteur des statuts sociaux bien déterminés, des niveaux de vie connus de tous. Ces repères monétaires paraissent d'autant plus stables que la croissance est relativement lente, si bien que les montants en jeu ne se modifient que très graduellement au fil des décennies. Au XVIIIe siècle, la croissance de la production et du revenu par habitant est très faible. Au Royaume-Uni, le revenu national moyen par adulte est de l'ordre de 30 livres par an vers 1800-1810, quand Jane Austen écrit ses romans. Ce revenu moyen n'était guère différent vers 1720 ou 1770. Il s'agit donc de points de repère très stables avec lesquels la romancière a grandi. Elle sait que pour vivre confortablement et avec élégance, pour pouvoir se transporter et se vêtir, se nourrir et se divertir avec un minimum d'aide domestique, il faut disposer, selon ses critères, d'au moins 20 ou 30 fois cette somme. Ce n'est qu'à partir de 500 ou 1000 livres de revenus annuels que les personnages de ces romans considèrent qu'ils ne sont plus dans le besoin. Nous reviendrons amplement sur la structure des inégalités et des niveaux de vie qui sous-tendent ces réalités et ces perceptions, et en particulier la structure de la répartition des patrimoines et des revenus qui en sont issus. À ce stade, le point important est qu'en l'absence d'inflation et compte tenu de la très faible croissance, ces montants renvoient à des réalités très concrètes et très stables. De fait, un demi-siècle plus tard, dans les années 1850-1860, le revenu moyen atteint péniblement 40-50 livres par an. Le lecteur trouve sans doute les sommes citées par Jane Austen légèrement trop faibles, mais il n'est pas dépaysé. À la Belle Époque, vers 1900-1910, le revenu moyen atteint 80-90 livres au Royaume-Uni. La croissance est sensible, mais les revenus annuels de 1000 livres, ou souvent bien davantage, dont parle la romancière, représentent toujours un point de repère significatif. On observe la même stabilité des repères monétaires dans le roman français. En France, le revenu moyen est de l'ordre de 400-500 francs par an dans les années 1810-1820, à l'époque du père Goriot. Exprimé en livres tournois, il était à peine plus faible sous l'Ancien Régime. Balzac, de même qu'Austin, nous décrit un monde où il faut au moins 20 ou 30 fois cette somme pour vivre décemment. Au-dessous de 10 000 ou 20 000 francs de revenus annuels, le héros balzacien se sent misérable. Là encore, ces ordres de grandeur ne changeront que très graduellement au cours du XIXe siècle et jusqu'à la Belle Époque. Ils demeureront longtemps familiers au lecteur. Ces montants permettent ainsi, en peu de mots, de planter avec acuité un décor, des modes de vie, des rivalités, une civilisation. On pourrait multiplier les exemples dans le roman américain, allemand, italien et dans tous les pays qui ont connu cette grande stabilité monétaire. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'argent a un sens et les romanciers ne manquent pas de l'exploiter, de l'explorer et d'en faire une matière littéraire. La fin des repères monétaires au XXe siècle. Ce monde s'effondre définitivement avec la Première Guerre mondiale. Pour financer les combats d'une violence et d'une intensité inouïe, pour payer les soldats et les armements de plus en plus coûteux et sophistiqués qu'ils utilisent, les gouvernements s'endettent lourdement. Dès août 1914, les principaux belligérants mettent fin à la convertibilité de leur monnaie en or. Après la guerre, tous les pays auront recours à des degrés divers à la planche à billets pour résorber l'énorme endettement public. Les tentatives de réintroduction de l'étalon or dans les années 1920 ne survivront pas à la crise des années 1930. Le Royaume-Uni quitte l'étalon or en 1931, les États-Unis en 1933, la France en 1936. L'étalon dollar-or de l'après-guerre sera à peine plus durable. Mis en place en 1946, il disparaît en 1971 avec la fin de la convertibilité du dollar en or. Entre 1913 et 1950, l'inflation dépasse 13% par an en France, soit une multiplication des prix par 100, et atteint 17% par an en Allemagne, soit une multiplication des prix par plus de 300. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, moins lourdement touchés par les guerres et moins fortement déstabilisés politiquement, le taux d'inflation est nettement plus faible, à peine 3% par an entre 1913 et 1950. Mais cela représente tout de même une multiplication par 3 alors même que les prix n'avaient pas bougé au cours des deux siècles précédents. Dans tous les pays, les chocs des années 1914-1945 brouillent profondément les repères monétaires qui prévalaient dans le monde d'avant-guerre, d'autant plus que le processus inflationniste n'a jamais véritablement cessé depuis. Cela apparaît très clairement sur le graphique 2.6 qui représente l'évolution de l'inflation par sous-période pour les quatre pays, de 1700 à 2012. On notera que l'inflation se situe entre 2% et 6% par an en moyenne entre 1950 et 1970, puis repart fortement à la hausse dans les années 1970, à tel point que l'inflation moyenne atteint 10% au Royaume-Uni et 8% en France entre 1970 et 1990, en dépit du fort mouvement de désinflation amorcé un peu partout à partir du début des années 1980. Par comparaison aux décennies précédentes, il serait tentant de considérer que la période 1990-2012, avec une inflation moyenne autour de 2% par an dans les quatre pays, un peu moins en Allemagne et en France et un peu plus au Royaume-Uni et aux États-Unis, se caractérise par un mouvement de retour à l'inflation zéro d'avant la Première Guerre mondiale. Ce serait cependant oublier qu'une inflation de 2% par an est fort différente d'une inflation à 0%. Si l'on ajoute à l'inflation annuelle de 2% une croissance réelle de 1-2% par an, cela signifie que tous les montants, production, revenus, salaires, tendent à progresser de 3-4% par an, si bien qu'au bout de 10 ou 20 ans, toutes les sommes en jeu n'ont plus rien à voir. Qui se souvient des salaires en vigueur à la fin des années 80 ou au début des années 1990? Il est en outre tout à fait possible que cette inflation à 2% par an soit amenée à s'élever quelque peu dans les années qui viennent, compte tenu de l'évolution des politiques monétaires depuis 2007-2008, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s'agit là encore d'une différence considérable avec le régime monétaire en vigueur il y a un siècle. Il est également intéressant de noter que l'Allemagne et la France, qui sont les deux pays qui ont le plus eu recours à l'inflation au XXe siècle, notamment entre 1913 et 1950, semblent aujourd'hui les plus réticents. Ils ont d'ailleurs bâti une zone monétaire, la zone euro, presque entièrement construite autour du principe de la lutte contre l'inflation. Nous reviendrons par la suite sur le rôle joué par l'inflation dans la dynamique de la répartition des richesses, et en particulier sur l'accumulation et la répartition des patrimoines au cours de ces différentes périodes. À ce stade, insistons simplement sur le fait que la perte des repères monétaires stables au XXe siècle constitue une rupture considérable avec les siècles précédents, non seulement sur le plan économique et politique, mais également sur le plan social, culturel, littéraire. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'argent, ou plus précisément l'évocation concrète des sommes et des montants, a presque disparu de la littérature à la suite des chocs des années 1914-1945. Les revenus et les fortunes étaient omniprésents dans toute la littérature jusqu'en 1914, en sont progressivement sortis entre 1914 et 1945 et ne sont jamais totalement réapparus. Cela vaut non seulement pour le roman européen et américain, mais aussi sur les autres continents. Les romans de Naguib Mahfouz, ou tout du moins ceux qui se déroulent dans le Caire de l'entre-deux-guerres, où les prix n'ont pas encore été défigurés par l'inflation, font la part belle aux revenus et à l'argent pour illustrer les situations et les angoisses des personnages. Nous ne sommes pas loin d'un monde balzacien ou esthénien. Les structures sociales n'ont évidemment pas grand-chose à voir, mais il est possible d'ancrer les perceptions, les attentes et les hiérarchies dans des repères monétaires. Ceux d'Orhan Pamuk, qui se déroulent dans l'Istanbul des années 1970-1980, à un moment où l'inflation a depuis longtemps retiré tout sens à l'argent, ne mentionne aucun montant. Dans « Neige », Pamuk fait même dire à son héros, écrivain comme lui, qu'il n'y a décidément rien de plus ennuyeux pour un romancier que de parler d'argent et des prix et revenus en vigueur l'année dernière. Le monde a décidément bien changé depuis le XIXe siècle.